discuter avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir et bienvenue à La Petite Cuillère, émission anticarcérale de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Ce soir, on va vous parler de la Savoie et de l'Isère, des permissions de sortie refusées, la tôle et la ville s'embrasent. Ensuite, on vous lira un communiqué de l'Envolée pour le procès de Fabrice Borromée. Après, on va vous parler de la mobilisation des matons d'aujourd'hui. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Quelques brèves. Et si on a le temps, peut-être une lutte contre la prison à Forêt en Belgique. Et quelques petites minutes sur l'Iran. En deuxième partie d'émission, on recevra un camarade turc qui va nous parler de la prison, les mobilisations il y a 15 ans qu'il y a eu là-bas et leurs conséquences, son expérience personnelle à lui de la prison en Turquie et qui va nous parler aussi un peu des luttes d'aujourd'hui autour des prisonniers et prisonnières politiques.
Et du coup, on peut commencer avec la Savoie, l'Isère, ce qui s'est passé en début de semaine, ça en a pas mal parlé dans les médias de manière assez sur le coup et minute par minute, confusément. Alors ça vaut le coup de revenir, refaire un petit topo sur le soulèvement qui concernait surtout les gens du voyage en Savoie, en Isère, pas très loin d'ici. C'est parce que ça, tout a démarré samedi dernier, c'était le 17 octobre, où 4 jeunes à bord d'une voiture, apparemment une voiture volée, ont percuté un arbre. On ne sait pas à ce moment-là s'ils étaient pris en chasse par la police ou pas, parce que c'est des trucs qui arrivent quand même souvent que ce genre de collision arrive au moment d'une course-poursuite. Enfin là, les médias, ils n'en parlent pas en tout cas, mais l'accident, il est grave, il est très grave, et sur les 4 jeunes qui sont à bord, il y en a 3 qui meurent sur le coup. Alors ça met un choc chez tout le monde. Et l'enterrement de ces 3 jeunes est prévu pour mercredi après-midi, c'était hier. De ces 3 jeunes, on a beaucoup parlé de l'un d'entre eux parce que cette victime a un frère qui est détenu à la prison d'Eton en Savoie. Pardon. Et du coup, comme tout membre de la famille peut le faire, il demande une permission de sortie pour se rendre aux obsèques. Et là, assez vite, la permission de sortie est refusée. C'était déjà mardi matin et il y a eu des appels et tout ça jusqu'au lendemain. Mais face à cette permission de sortie refusée, le détenu, il est quand même très en colère. On entend aussi sa mère sur les médias qui explique que c'est complètement dégueulasse de ne pas laisser quelqu'un assister à l'enterrement de son frère. Et du coup, lui-même et ses co-détenus mettent en place une révolte rapidement. Dès mardi après-midi à la prison d'Eton, ils refusent tous de remonter en promenade, de remonter en cellule à la fin de la promenade. Et là, c'est la mutinerie, les serrures sont bloquées, et les serrures des portes sont bloquées, et le feu prend sur tout ce qu'ils trouvent. Des matelas, des chaises, des tables, tout ça. Il y a des dizaines de détenus qui participent. Il y a même des véhicules qui sont brûlés à l'intérieur et à l'extérieur de la tôle. Donc là, c'est branle-bas le combat tout autour. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça concerne un peu toute la communauté qui est touchée, et notamment qui vit autour de Moiran, en Isère. Et donc, dans le même temps, mardi après-midi, pour réclamer cette même permission de sortie, les gens du voyage du coin se mobilisent et mettent le feu partout dans le centre-ville, autour de la gare, avec des voitures brûlées sur les ronds-points, sur les rails, le trafic ferroviaire, les trafics routiers aussi sont bloqués, des bâtiments autour de la gare, la cantine d'un collège, un restaurant, la colère bout le feu dans tout le centre. Et rien n'y fait, le détenu n'est toujours pas libéré, donc le lendemain matin, il y a eu un dernier appel de la part du détenu qui est refusé par la cour d'appel qui statue à ce moment-là en urgence, et sa mère tente de reporter les obsèques à jeudi. On l'entend encore sur les informations et dire que c'est abusé, et ça l'est. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la mairie de Moirans? Elle refuse que les obsèques soient reportées et elle est très pressée d'en finir. Et finalement, les obsèques ont eu lieu hier après-midi sans la présence du frère qui, entre-temps, a été du coup déplacé, transféré dans une autre prison. Et voilà. Et là-dessus, il y a eu quand même, il y a des sanctions qui vont tomber contre les détenus qui sont libérés, qui sont révoltés. Il y a eu aussi des arrestations à Moirans. La ville était sous occupation policière toute la soirée de mardi soir. Et on imagine qu'il y a eu des arrestations et donc il va y avoir des procès qui vont arriver. Voilà sur le petit topo. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles de ça dans les prochaines semaines au fur et à mesure des procès. Et maintenant, on peut parler de Fabrice Bourromé.
Oui, oui. Bonjour.
Bonjour. Avec les micros, c'est encore mieux.
Bonjour à toutes et tous les auditeurs de Radio Canu. Je viens de débouler dans les studios, alors c'est pour ça mon micro n'était pas encore lancé. Et je vais rapporter la parole de L'Envolé, qui est un journal anticarcéral de Paris notamment, mais francophone en gros. Et en fait, je réexplique rapidement la démarche de ce journal, c'est de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre les luttes à l'intérieur des prisonniers et vers l'extérieur et inversement. Et notamment aussi pour mettre en lien les prisonniers et prisonnières entre eux, c'est une sorte d'outil qui est appropriable par toutes et tous. Et là, en fait, sont allés au procès de Fabrice Bourromé qui avait lieu à Béthune le vendredi 16 octobre parce qu'il avait pris en otage l'administration pénitentiaire. Et pour une fois, c'est ce qu'on dit souvent en fait quand on fait les brèves de détention, quand on a nos petits, quand on vous rapporte les petites brèves de l'actualité de des journaux. Souvent on dit là il y a un acte de violence sur un maton ou quelque chose comme ça, et les syndicats de la matonnerie sont très très forts pour dire à l'aide, c'est trop bien ce qui se passe là, et on voudrait plus de sécurité, plus d'armes, plus de collègues, etc. Et souvent on dit, nous on n'a jamais la parole de ce qui se passe pour les prisonniers, pourquoi ils font ça, ils doivent bien avoir des raisons, c'est rare que la violence existe juste pour la violence. Et là, on va entendre en fait ce que dit Fabrice Bourromé. C'est un bout de la lettre que je vais lire pour l'instant. Il écrit « Je suis arrivé en métropole le 8 août 2011. J'ai été transféré de force loin de ma famille. Loin de ma famille. Je n'ai pas de parloir parce que toute ma famille est en Guadeloupe. À la base, j'étais condamné à 8 ans de prison. Et là, je me retrouve avec 28 ans de prison à cause des agressions et des prises d'otages. Tout ça parce que je veux rentrer chez moi. J'ai pris en otage le sous-directeur de la prison de Vendin-le-Vieil parce que le 8 septembre 2015, il m'apprend que je ne sortirai pas de l'isolement au mois de septembre, comme convenu, mais au mois de novembre. Cela faisait 9 mois que j'étais à l'isolement, à souffrir des méchancetés des surveillants. Lors des rondes de nuit, il frappe à la porte afin de me réveiller et laisse la lumière allumée et il rigole devant la porte. C'est pour cela que j'ai fait la prise d'otage le 9 septembre 2015. Mon avocat, Maître David, peut vous le confirmer. Il a fait de son mieux pour que ça s'arrête, et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, en Guadeloupe, voir mes proches. Je suis en attente du procès pour la prise d'otage de Vendin-le-Vieil. J'ai fait plusieurs demandes de transfert au ministère de la Justice pour rapprochement familial, tout a été refusé, et je ne sais plus quoi faire pour me faire entendre. Mes salutations. » Alors, il a envoyé cette lettre le 21 septembre 2015 à L'Envolé. Et eux, ils ont écrit un petit communiqué. Le 9 septembre, Fabrice Bourromé a retenu le sous-directeur de la prison de Vendin-le-Vieil. Celui-ci ne s'est pas constitué partie civile contre Fabrice Bourromé parce qu'il dit n'avoir subi aucune violence. Tout comme Cyril Canetti, psychiatre qui avait été retenu par Éric Dorfeur à la prison de la Santé, qui était venu témoigner en sa faveur lors du jugement en juin 2013. Le 30 décembre 2013, Fabrice Bourromé avait déjà pris en otage un surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe et il avait été condamné à 8 ans de prison. Comme il écrit dans sa lettre, Il cumule 20 années de prison pour des faits survenus en détention, comme ses prises d'otages qu'il fait pour exiger son rapprochement familial. Il ne comprend pas pourquoi l'administration pénitentiaire lui refuse le droit de garder des liens familiaux. Fabrice est classifié par l'administration pénitentiaire comme un détenu particulièrement signalé, DPS, c'est-à-dire dangereux. La prison de Vendin-le-Vieil, comme celle de Condé-sur-Sarthe, sert à enfermer les prisonniers condamnés à des peines qui sont quasiment des perpétuités, qui pourraient se résoudre à rester en prison à vie. Cette situation est celle de beaucoup de prisonniers. D'un côté, les peines prononcées par des cours de correctionnel ou d'assises sont toujours plus longues. De l'autre, les juges d'application des peines veillent à ce qu'elles soient exécutées. Les demandes de transfert, permission de sortir, libération conditionnelle sont à la baisse depuis des années. Loin de permettre de sortir, la politique d'aménagement des peines prolonge le plus longtemps possible la durée de la détention des prisonniers. Ils doivent attendre des mois pour obtenir ne serait-ce qu'une entrevue qui se conclut très souvent par un refus. Il ne leur reste pas grand-chose d'autre que la force pour se faire entendre, et ce sont des gestes difficiles qui leur valent de nombreuses années de prison supplémentaires. Un cercle vicieux duquel il est très compliqué de s'échapper. Récemment, un journaliste a écrit que, avec son geste, Fabrice Borromée aurait obtenu son transfert. Faux. Il a juste obtenu de quitter provisoirement une des prisons les plus sécuritaires pour atterrir au fond du quartier disciplinaire de la prison d'Annelin. Rien à voir avec le rapprochement familial qu'il revendique depuis 2008. L'envolée, 13 octobre 2015. Alors, si vous voulez soutenir ce prisonnier raconter pareil ce qui se passe, sur le site de l'envolée sur internet, vous aurez toutes les informations pour être en contact avec ce prisonnier si vous avez envie, soit pour mener une lutte, soit pour montrer de la solidarité. Et sinon, si vous voulez nous raconter ce qui se passe dans les prisons de la région lyonnaise, je pense que ça a déjà été dit au début de l'émission, mais n'hésitez pas à nous écrire à l'atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon pour nous dire si pareil vous subissez des actes de violence, d'injustice à l'intérieur des tôles.
Merci pour cette explication sur Fabrice Borromée et tout ça. Puis peut-être on va continuer avec la mobilisation des matons qui a eu lieu aujourd'hui, parce qu'il y avait un appel national. Et du coup, parce qu'il y avait encore comme régulièrement, tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, ça dépend, les matons qui sont en colère et qui disent « tout va mal, tout va mal, tout va mal » et qui appellent à manifester, qui bloquent des tôles et compagnie. Et aujourd'hui, c'était une journée parmi d'autres, avec une manif à Paris devant le ministère de la Justice, des revendications qui sont toujours les mêmes sur les conditions de travail, sur l'insécurité, sur demande de plus effectifs, de plus hauts salaires et tout ça. Déjà, à noter au passage, cette mobilisation, elle intervient alors que le gouvernement, il va déjà embaucher 1500 matons l'année prochaine et 200 conseillers d'insertion et de probation. Du coup, ça veut dire qu'il y aura de toute façon plus de matons l'année prochaine. Et voilà, et ça fait aussi de toute façon que même s'il y a ça, même s'il y a plus d'embauches, il y a toujours des sous-effectifs dans l'administration pénitentiaire, il y a toujours plus de mobilité des matons pour aller dépanner sur une tôle ou dépanner sur l'autre et compagnie, et c'est ce que les syndicats y dénoncent aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle le mode dégradé dans la pénitentiaire. Donc ça pose aussi des petites questions sur qu'est-ce que font les matons, qu'est-ce que fait l'administration pénitentiaire, qu'est-ce que ça veut dire d'être en sous-effectif, parce qu'être en sous-effectif pour les matons, ça veut dire aussi d'un côté il y a moins d'activité pour les détenus, parce qu'il y a moins de possibilités de se déplacer à l'intérieur de la tôle, ça veut dire aussi c'est peut-être plus difficile de voir un toubib ou plus difficile d'avoir des parloirs s'il n'y a pas assez de monde pour les surveiller, compagnie. Mais les matons, de toute façon, ils ne parlent pas de ça, les matons s'en foutent, et voilà. Et d'un autre côté, plus de matons et les revendications des matons sur plus d'armes, plus d'effectifs et compagnie, ça fait surtout plus de contrôle, plus de fouilles de cellules, parce qu'il y a plus de moyens pour faire tout ça, il y a plus de fouilles à nu aussi, et ça fait donc aussi beaucoup plus de petites misères possibles pour les détenus, parce que quand ils vont aller faire chier les détenus en isolement à frapper toutes les 2 heures la nuit, et par exemple, ils peuvent plus se le permettre s'ils sont 4 à ce moment-là que s'il est tout seul le matin. Voilà, donc ils se plaignent des conditions de travail, ils mettent en avant aujourd'hui les 14 suicides de Mâcon depuis le début de l'année, et c'est un décompte macabre qui font les syndicats, et en face il y a aussi le décompte macabre de l'association Banque Publique qui énumère 34 suicides de détenus depuis janvier également, et ça les syndicats ils se gardent bien d'en parler. Voilà, donc la vie de l'administration pénitentiaire continue avec toute... les petites misères que les matons ils vont faire aux détenus et en même temps de leur grosse mobilisation collective avec leurs quatre syndicats bien puissants et très relayés dans les médias à chaque fois qu'ils font une journée de manifestation et qu'on parle jamais des conditions de vie des détenus en tôle.
Eh ben peut-être on va enchaîner avec une petite musique.
Avec plaisir.
Toutou, vous êtes toujours sur Radio Canu.
Notre petite musique.
Ah, si, c'est bon.
Varın roşa var
Vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, émission anticarcérale sur Radio Canut 102.2. Et maintenant, la musique qu'on vient d'écouter, elle s'appelle Kardesh Circulaire, c'est une chanson sur le Rojava. On va passer à nos brèves, la Lima Angle.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir, les détruire un petit peu. La Lima Angle, une rubrique sur toutes les évasions.
Difficile de faire notre rubrique de la Lima Angle sans rappeler le contexte de ces deux dernières semaines en France. Lundi 5 octobre dernier, un braqueur se fait abattre par la police. Suite à cela, les journalistes et médias s'emballent. Le braqueur était en cavale depuis mai et en plus repéré comme un dangereux taulard en cours de radicalisation islamique. On secoue ces deux informations et on n'en fait qu'une. Comment est-il possible qu'en France de laisser sortir si facilement des prisons des dangereux détenus ? Christiane Taubira est jugée trop laxiste, les juges permettent trop facilement des remises de peine. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait cette réalité. En plus, ce n'est pas une histoire de remise de peine, mais ah oui, une permission. Alors comment autorise-t-on une permission à un prisonnier suivi par les renseignements généraux pour ses convictions politiques ? Le week-end suivant ce fait divers, un autre prisonnier en permission est accusé d'avoir agressé sexuellement une promeneuse, ce qui a entraîné des manifestations de policiers la semaine suivante face à Christiane Taubira. Dans les deux dernières émissions, Papillon et la Petite Cuillère, nous faisions l'effort de rappeler à quel point il est difficile d'obtenir des permissions de sortie. Certaines voix arrivent à se faire entendre dans les médias sur la catastrophe pour les prisonniers d'avoir des sorties sèches, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans travail, logement, pas eu le temps de prévenir la famille, les amis. On rappelle des chiffres donnés par l'Observatoire des prisons. Les juges d'application des peines ont accordé 48 481 permissions de sortie en 2014, contre 55 302 en 2013, soit une baisse de 12%. Les évasions restent rares. En 2014, 281 détenus, 295 en 2013, n'ont pas regagné leur cellule à l'heure dite. Et, comme le dit Laurence Blisson, juge d'application des peines et secrétaire général du syndicat de la magistrature, on les retrouve le plus souvent à leur domicile ou en famille. Dans la plupart des cas, ils sont de retour en prison dans les 48 heures. En maison d'arrêt ou en maison centrale, les condamnés à plus d'un an de prison doivent avoir effectué la moitié de leur peine et n'avoir plus à rester en prison que 3 ans maximum. Je la refais. Ça veut dire que tu dois déjà avoir effectué un an de prison et qu'il te reste moins de 3 ans de peine à faire. En centre de détention, les condamnés à plus d'un an de prison peuvent y prétendre quand ils ont exécuté le tiers de leur peine. Cette rubrique de la Lima Angle est là pour rappeler que le désir des libertés reste heureusement toujours plus fort que tout et malheureusement on n'aurait jamais très longtemps en cavale et ça se paye cher.
Ensuite, le 20 octobre, dans l'Aube, depuis 2013, il avait décidé d'être libre et en ne retournant pas en prison suite à une permission. Mais la police et la justice ne voulaient pas l'oublier. Il a été interpellé au domicile de sa compagne. Il a été de nouveau placé en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal correctionnel de Reims le 16 novembre prochain. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison pour son évasion et la détention d'armes selon le parquet de Reims.
C'était la veille le 19 octobre 2015 dans le centre de détention d'Uzerche. Dans la nuit, un détenu qui avait déjà essayé à plusieurs reprises de s'évader du quartier disciplinaire de cette tôle, en Corrèze, a pris la fuite en passant par un endroit sensible, signalé à plusieurs reprises. Ça, c'est la citation des personnels et des organisations syndicales de la tôle d'Uzerche. On ne sait pas ce que c'est très bien, ce que cet endroit sensible, mais malheureusement, ça ne semble pas être la porte ouverte vers la liberté. En effet, le prisonnier a été retrouvé la nuit même vers les établissements sportifs de la même prison.
Le 16 octobre, à la maison d'arrêt de Montauban, un prisonnier avait obtenu de l'administration une permission de sortie de 2 jours à la mi-septembre. Cette fois-ci, il décide de prolonger de 2 jours sa permission. Pour éviter que cela ne se multiplie, il faut faire des exemples, dit le procureur Pierre Vignoble lors du procès, qui demande 4 mois ferme. Il a été condamné à 2 mois de sortie, qui retarde bien sûr sa sortie de tôle définitive.
Et on remonte encore un peu dans le temps, le 10 octobre 2015, à la maison d'arrêt de Moulins-Isère. Un prisonnier qui n'était pas rentré après une permission le 2 octobre a été interpellé samedi 10 octobre à Vichy par les policiers de la BAC. Selon les syndicats de la maçonnerie, l'homme avait prévenu l'administration pénitentiaire de son projet d'évasion. Le parquet a démenti. Il n'y a aucune information selon lesquelles ce projet d'évasion, et je cite, « serait remonté à l'administration pénitentiaire ou à l'autorité judiciaire en faisant état d'une volonté avérée de l'intéressé de s'évader. À aucun moment il n'est établi que ce détenu a pu se confier à un codétenu ou à un surveillant », a-t-on ajouté de même source. Il encourt 3 ans de prison, nous n'avons pas eu d'informations supplémentaires sur le rendu du procès.
Le même jour, c'était le 10 octobre, en Charente-Maritime, le tribunal de grande instance de Saintes a condamné un prisonnier qui s'obstine à s'évader à 1 an de prison ferme pour une double tentative d'évasion remontant au mois de novembre 2014, alors qu'il était incarcéré dans la maison d'arrêt de cette même ville de Saintes. Il s'acharne, s'obstine, veut la liberté, mais les juges ne semblent pas prêts à la lui donner. Courage à lui qui se paye une année supplémentaire de tôle.
Et la veille, à prison de Réau, un prisonnier qui n'avait pas regagné sa cellule après une permission de sortie mercredi soir dernier a été retrouvé à Nice 3 jours plus tard. C'est son téléphone portable qu'il a trahi et qu'il a géolocalisé.
Et le même jour, à l'hôpital d'Angers, un détenu s'est fait la malle et il court toujours. Il était en détention provisoire à la suite de sa mise en examen pour braquage. Il avait été hospitalisé mardi au CHU d'Angers après s'être plaint de maux de ventre. Il avait alors été placé dans une des 2 chambres cellules sécurisées que compte l'établissement. Mais malgré la présence dans le couloir de 2 policiers chargés de sa surveillance, il a réussi à forcer la fenêtre et à s'évader à l'aide de draps noués. Bien joué.
Et on termine avec le 8 octobre à Besançon. Un prisonnier s'est échappé lors d'une sortie vélo accompagné de 4 autres détenus à une dizaine de kilomètres de la tôle. Lui aussi n'aurait pas encore été retrouvé. Pédale bien et bonne cavale.
Et on enchaîne avec les petites news sur la Belgique.
En Belgique, effectivement. Alors ça va pas être très long, mais il y avait des petites news assez drôle, autour du 13 et 14 octobre, ça a commencé le 13, la nuit qui, juste avant le début du marché annuel à Forest. Forest, une ville de Belgique qui accueille une tôle, et du coup un gros marché annuel qui est l'événement de l'année. Donc la veille de ce marché, le monument aux morts à la mémoire des soldats morts dans la guerre de 14-18 a été tagué. On pouvait y lire « La prison de Forest vous maudit » et « Détruisons la prison ». Alors, la prison de Forest vous maudit qui ? Eh bien, le bourgmestre, le maire, Marc-Jean Guissel, en particulier, qui était très choqué, parce qu'en fait, le lendemain matin, il devait être là pour déposer des fleurs devant ce monument, comme chaque année. Et du coup, la cérémonie a été perturbée, parce que, à cause de ce gros tag, vraiment, en face de la gerbe de fleurs, la prison de Forest vous maudit. Et c'était le lendemain. Ensuite, sur la tôle elle-même de cette même petite ville, on a retrouvé exactement les mêmes tags. Et voilà, pour dire qu'il y a toujours des gens à l'intérieur qui se battent contre la prison, mais aussi des gens à l'extérieur qui continuent des petits mouvements de solidarité.
On enchaîne avec une petite musique qui vient, pareil, de Turquie. Et après, on aura un camarade turc qui va nous raconter les conditions de détention en prison. Vous êtes toujours sur la petite cuillère, pierre par pierre, sur Radio Canus 102.2 FM.
Thank you. zarları uyandırmaz yavrusunu. Benim annem pazartesi nemlikte bir çay tanesi. Benim annem salı günü ya hüzün ya düğün tülü. Benim annem bir çarşamba, görmesen de sen aldanma. Bütün kuytuları benim annem cumartesi. Her bir dilde çıkar sesi. Benim annem cumartesi elinde solmuş bir resim. Benim annem cumartesi hesap soracak köfkesi. Benim annem cumartesi, benim annem cumartesi. Kör kuyularda bul beni. Bul beni bir sahilde çıplak, bir işkence gemisinde elektrikli ayık. Bir kışlada kayıp anne bir sokak başında. İsimsiz yüzsüz bir kimsesiz mezarında. Kaybedenler kaybetti yazan mezar taşının altında. Bul beni. Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında, Plaza del Mayo'da. Anne bul beni Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bartın İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni, bul beni. Bir sabah, bir sabah, bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni. O sabahı kuran kadının sözlerinde. Anne bul beni Ahmet Kaya'nın gözlerinde. Anne. Cumartesi elinde solmuş bir resim. Benim annem cumartesi.
Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 FM, sur La Petite Cuillère, émission anticarcérale diffusée sur Radio Canus et Radio Duo à Saint-Étienne 89.5. Et oui, nous sommes diffusés sur Saint-Étienne. Alors on vous salue si vous nous entendez là-bas dans la Talaudière. Alors on est avec un camarade qui vient de Turquie, d'Ankara, qui s'appelle Devrim et qui fait partie du groupe Anarchiste Initiative. Et en 2008, il a été incarcéré dans les tôles de Turquie suite à son refus de faire le service militaire. Il nous racontera ça tout à l'heure. Et on est avec un autre camarade qui va nous faire les traductions du turc au français.
Et alors, pour commencer cette interview, on parlera de plusieurs choses, mais on va commencer par il y a une quinzaine d'années, il y avait des mobilisations en Turquie. Contre les prisons qui ont été assez massives. Et est-ce que tu peux nous présenter les revendications, les conditions de cette mobilisation de la part des détenus, du coup, en Turquie?
Şimdik il sorumluz 15 sene önceki mücadeleler, yani cezaevin konusunda mücadelelerden bize bahsedebilir misiniz? Siz dışarıdan yaptıklarınızı ve içeridekilerin de istediklerinden. Hı hı.
Şimdi Türkiye'de tabii 15 yıl önce ne oldu ya da ne yapmak istediler ondan biraz bahsedeyim. Türkiye'de daha önce bir cezaevinde tutukluların kalma biçimi vardı ve bu daha kalabalık şekilde oluyordu. 20-25 kişilik koğuşlar şeklinde kalabiliyorlardı.
Alors, pour commencer sur le sujet des luttes dans les prisons il y a 15 ans, il faut commencer par dire qu'à l'époque, les prisons étaient encore plus remplies que maintenant. On avait quand même des cellules remplies entre 20 et 25 personnes.
Tabii devlet bununla ilgili özellikle bunu belirtmek gerekiyor. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında. Bu cezaevlerini bir takım tabi bahaneler geliştirerek aslında temel olarak insanların yaşam cezaevlerindeki o tutukluluk hallerinin kısıtlanması için bir takım değişiklikler cezaevlerinin modernizasyonunu başlattılar 15 yıl önce.
Et donc il y a 15 ans, l'État, suite à des réformes qu'il y a eu, entre autres par rapport à l'Union européenne et compagnie machin, a été amené à appliquer plusieurs réformes et à faire plusieurs réformes dans les prisons, sur l'organisation des prisons, que ce soit sur l'entretien, sur le nettoyage, sur les conditions des détenus. Parce qu'il y avait un regard extérieur et que du coup, l'État turc était obligé de répondre à cela.
Et pour bien comprendre, en fait, ils étaient 20... ils étaient autant dans les cellules, parce que c'était des petites cellules, c'était quoi? C'était... Sur l'état des cellules.
Şimdi diyorsun ya bir aynı odada 20-25 kişilik falan insan kalırdı mı? Öyle bir şeyler nasıl? Yok. Küçük odalarda nasıldı?
Büyük, daha büyük tabii odalarda. Yani bu aslında hani şimdi daha fazla insan da birlikte yaşıyordu bundan önce. Özellikle şimdi şöyle başlamak gerekir aslında. Türkiye'de tutuklular iki şekilde ayrılıyor. Biri siyasi tutuklular ve organize suç örgütleri. Bunlar yani adli suçlular da olabiliyor. Bir de adli hükümlüler.
Du coup, enfin, c'est pas que c'est des petites chambres, c'est que c'était des grandes vies en communauté dans des grandes pièces, parce que en fait, il fallait absolument séparer en Turquie. Il y a deux sortes d'arrestations, les gens qui sont détenus pour activité politique et les autres. Et du coup, il y a une concentration de ces personnes, enfin des activistes politiques, une concentration de ces personnes qui puissent être accusées soit d'activité ou même seulement d'appartenance à une organisation, tous au même endroit pour les séparer des détenus de droit commun.
Bu F tiplerinden önce yani 2000 yılından önce siyasi tutsaklar daha kalabalık şekilde yaşayabiliyorlardı. Yani bu şu anlamda hani tecrit edilmeden yaşayabiliyorlardı aslında. Kalabalık oradaki sayı hani yaşam koşullarının daha kötü olduğu anlamında değildi. Tecrit olmadan yaşayabilecek kadar insanla bir arada yaşayabiliyorlardı.
Mais du coup, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permettait en fait à tous ces prisonniers et prisonnières politiques d'être entre elles et eux, et de continuer à pouvoir s'organiser, se protéger les uns les unes et les autres à l'intérieur des prisons. Ce qui fait que ce n'était pas forcément une mauvaise chose. C'était même limite des fois une victoire. Il y a des grèves de la faim qui se faisaient pour obtenir ça, le fait d'être introduit dans les cellules communes. Et par contre, ça a changé après l'an 2000 et la construction des prisons de type F, qui ont pour but justement de séparer, de diviser les prisonnières et prisonniers révolutionnaires.
Bu, yani bu F tipleriyle bunu aslında hükümlülerin ve oradaki özellikle yani siyasi tutsakların daha az kişiyle yaşayabilir, bazen tek bazen de üç kişilik odalarda yaşamalarını sağlayacak bir yeni bir yüksek güvenlikli cezaevleri dedikleri F tipi cezaevlerini yapmaya başladılar bundan işte 15 yıl önce.
Et du coup, c'est ça. C'est il y a 15 ans, donc en commençant la construction de ces prisons de type F, les prisonniers qui à une époque avaient une manière de s'organiser à l'intérieur des prisons ont dû tout changer parce qu'à présent, ils sont emprisonnés dans des prisons de haute sécurité où ils sont souvent une personne par cellule, des fois trois maximum.
Et du coup, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de prisonniers politiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces prisonniers politiques, si c'était des prisonniers anarchistes ou des prisonniers communistes ou de lutte d'indépendance kurde, etc.
Şimdi şu 15 seneki öncelerden, konulardan bize az konuşabilir misin? Şimdi oradaki cezaevinde kalanlar daha çok muydu şimdiye göre? Hı. Daha çok muydu ve kimlerdi? Yani anarşistler mi, komünistler mi yoksa Kürt özgürlükler mi? Hı.
Şimdi şöyle 15 yıl önce tabi bu cezaevlerindeki bu değişimle birlikte özellikle daha çoğunluklu olarak sol radikal sol diyeceğimiz yani burada öyle adlandırılıyor ama sol örgütler ve hani Kürt Özgürlük Hareketi mevcuttu. Anarşist bağımsız olarak bazı anarşistlerin olduğunu biliyoruz ama genellikle ağırlıklı olan tabii ki şeydi Kürt Özgürlük Hareketi ve sol örgütlerdi.
Alors non, à cette époque, la grosse majorité, c'est en fait, c'était les activistes et les membres des organisations révolutionnaires radicales de gauche, comme on dit ici. Ces organisations et aussi bien sûr les militants kurdes. Et derrière, il y avait des emprisonnés anarchistes, mais qui n'étaient pas là en tant qu'organisés ou en tant qu'organisation. C'était des personnes, du coup, qui étaient très séparées des autres et qui luttaient de manière très individuelle, parce qu'elles n'avaient pas d'organisation derrière.
Tabii bu direnişe karşı, yani bu yapılmak istenen bu F tiplerine karşı bir direniş başlattı tutuklular ve yaklaşık bu direnişte hem bu direniş dışarıda başladı cezaevlerin dışında destek eylemleri başladı hem de cezaevlerinde açlık grevleri başlatıldı yaklaşık bu bu eylemlerin bu direnişin sonucunda 122 kişi öldü.
Et du coup bien sûr il y a eu très rapidement un mouvement de résistance organisé à l'intérieur comme à l'extérieur de prison. Donc à l'extérieur sous un mode opératoire organisationnel qui est de faire voir, manifester et autres et tout. Et à l'intérieur par la pratique de la grève de la faim qui est très utilisée. Et suite aux grèves de la faim donc, qui ont été lancées il y a 15 ans contre les prisons type F, le résultat a quand même été la mort de 122 personnes qui sont allées vraiment jusqu'au bout de leur grève de la faim.
2000 yılı hem yani Türkiye'deki siyaset tek aslında bu cezaevlerinde yapmak istedikleri bu baskı aslında dışarıda da yapmak istedikleri yeni baskının göstergesiydi. Yani bizi aslında toplumsal olarak bir cezaevine alma süreciydi bu süreç. Onun için dışarıda da çok güçlü bir muhalefet örgütlendi.
Du coup il explique que cette réforme dans les prisons qui a eu lieu il y a 15 ans, donc en l'an 2000, ça a montré aussi la volonté de l'État turc, non plus, c'est pas seulement de réprimer ou de mieux contrôler les prisons, mais c'est de pouvoir accueillir beaucoup plus et dans des conditions beaucoup plus sûres les prisonniers qui voudraient faire de l'extérieur. L'attaque qui a été faite à l'intérieur dans les prisons, c'est, ça s'accompagne en même temps d'une accélération et d'une augmentation de la violence politique à l'extérieur aussi.
Ve bunun için 2000 yılı ve cezaevleri deki direniş süreci çok önemli bir yerde duruyordu. Ve tabii hani bu süreçte çok insan öldü ve ne yazık ki bu F tiplerine geçildi. Ve F tiplerinde tutsaklar üçer kişilik ya da tek kişilik tecrit koşullarında yaşamaya başladılar.
Et du coup, donc c'est bien triste, mais les prisons de type F donc sont passées. L'État a gagné sur ces luttes malgré les 122 morts qu'il y a eu. Et du coup, c'est il est très compliqué maintenant pour les camarades de s'organiser dans ces plus des dortoirs, mais dans des cellules individualisées, des cellules isolées en fait les uns des autres de 1 à maximum 3 personnes. Mais cette lutte du début de l'an 2000. Du début de, oui, c'est ça, de 2000, donc d'il y a 15 ans, reste une lutte extrêmement symbolique pour les mouvements de libération en Turquie, les mouvements que ce soit de gauche ou même de libération kurde et autres en Turquie, parce que c'est un mouvement très rassemblateur et qui était très représentatif de la violence de l'époque.
Et au terme de conditions de détention, il n'y a pas eu de victoire ou d'avancée pour, au cours de ces luttes, par exemple ?
Bu mücadelelerin içinde bir kazandığınız bir şeyler var mı? Bir şey kazanıldı mı yoksa tamamen kaybettik ve bu FTP'ler rahat bir şekilde yerleştirmiş mi?
Anladım. Aslında bundan önce yani devletin bu direniş karşısında bir takım geri adımları oldu. Özellikle 3 kapı 3 kilit dediğimiz bir süreç vardı. Devlet 7 kişilik hücreleri kabul etti ve geri adım attı bu konuda. Ama o dönem cezaevi direniş hareketi bu taleplerle uzlaşmadan yana olmadılar. Ve hani o gün gelinen nokta, o direnişin getirdiği noktadan geri bir süreçle, geri bir durumla karşı karşıya kaldı.
Du coup, au terme de cette période, il y a quand même un ou deux points sur lesquels on a réussi à faire reculer l'État. Par exemple, ce qu'on appelait à l'époque les trois portes, trois serrures, où donc fallait passer trois portes et trois contrôles avant de pouvoir accéder à la cour ou à quoi que ce soit et tout. Donc, et aussi à obtenir certaines chambrées de cette place, quand même. Le fait est, c'est que de toute manière, cette lutte n'a pas pu être menée. Donc jusqu'au bout, parce qu'en Turquie, on a été ensuite confronté à une nouvelle période de lutte. Donc, à des luttes, enfin, pour dire, il y a tellement de mouvements, il y a tellement d'actualités qu'au sortir de ça, il y a eu encore une nouvelle période de lutte sur un autre sujet qui a fait que toute l'attention s'est déportée là-dessus.
Et toi, la prison en Turquie, c'est quoi ton expérience quand tu as été incarcéré ?
Et senin yaşandıklarını ne cezaevlerinde senin gördüğün yaşadıklarım.
Anladım. Şimdi hani benim çok uzun bir cezaevi sürecim olmadı. Hani çok tutuklu kalmadım. Yani buna orada bazen üzülüyoruz. Bazen hani bir anlam biçmeye çalışıyoruz ne yazık ki. Şimdi benim yaşadığım tabii bizim için şöyle bir durum vardı. Daha doğrusu biz anarşist hareketin daha önceden cezaevleriyle doğrudan devletin anarşistlere yönelik yaptığı bir operasyon yoktu benim cezaevine girdiğim sürece kadar.
Donc moi, mon expérience personnelle à moi, elle a pas été très très longue en prison, donc des fois, on ne sait pas s'il faut être triste ou s'il faut en être heureux. Mais donc, j'ai eu la chance, en tout cas, de ne pas y rester très longtemps. Par contre, pour dire que par rapport aux prisons, donc par rapport à ma situation ou autre, il n'y a pas eu encore d'opération spécifique lancée contre les anarchistes. Ce qui fait que quand il y a des arrestations, c'est vraiment dans des actions, dans des manifestations, mais il n'y a pas eu d'opération qui fait qu'il y a un emprisonnement long.
Benim 2008 yılında tutuklandım. Anarşist olarak bir eylemde 21 kişi gözaltına alındık. Ben tutuklandım. Diğer arkadaşlar tutuksuz olarak yargılanmaya devam ettiler. Tabii şimdi devlet cezaevine girdiğinde şunu ayıklamaya çalışıyor. Neysin ve hangi örgüttensin? Ona göre bir koğuşta kalıyorsun.
Du coup moi quand je me suis fait arrêter c'était en 2008 suite à une action spécifiquement anarchiste, donc à une manifestation. Nous avons été 21 personnes à nous faire arrêter et j'ai été la seule personne incarcérée. Les autres ont continué leur procès en étant libres, donc de l'extérieur. Et ce que je peux en dire, c'est que le premier questionnement de l'État vis-à-vis de ta situation en prison là-bas, c'est qui es-tu et à quelle organisation appartiens-tu? Et donc tout va se dérouler par rapport à ça en prison.
Böyle olunca tabii ben tek kişilik bir hücrede kaldım. Yaklaşık 10 metrekarelik bir hücreydi. Bu aslında beni tuttukları yer cezaevinde, ceza içerisinde ceza verilen bir yerdi. Yani normalde beni daha koşulların iyi olduğu bir yere koymaları gerekiyordu. Ama tek olduğum için bir hücreye koydular beni. Yani bunu cezaevlerinde sorun yaşayanları, bir problem yaşayanları cezalandırmak için koydukları yere koydular.
Du coup moi j'ai été incarcéré dans une prison seule vu que j'appartenais à aucune organisation déjà présente, donc isolé dans une cellule donc de 10 mètres carrés et en plus de ça, étant donné qu'ils ne savaient pas où me mettre, ils m'ont mis dans une partie de la prison où normalement on place les gens qui sont en plus punis pour avoir fait des trucs en prison, pour ne pas s'être montré très coopératif. Donc j'étais vraiment très isolé.
Yani tabii yani bu tabii zor bir şeydi yani. Hani gün içerisinde güneşi işte bir saat görebiliyorsun, havayı, havalandırma. Onun dışında sürekli kapalısın. Eğer tutukluk süreci devam etseydi biraz daha tabii farklı şeyler olacaktı. Ama yani hani cezaevi koşulları içerisinde tabii çok fazla hani dışarıdan gelecek haberler ve hani ve senin o cezaevindeki o keyfi tutumlara dair göstereceğin direnci ölçmeye çalışıyorlar. Hani öncelikli olarak onunla karşılaşıyorsun.
Du coup bien sûr les conditions sont extrêmement difficiles. Donc même si moi j'ai eu la chance que ça dure pas plus longtemps, du coup j'ai pas forcément connu plus, mais rien que le fait d'être complètement enfermé, isolé dans le noir ou une lumière artificielle et de pouvoir respirer l'air frais qu'une heure par jour ou quoi, c'est déjà très oppressant. À rajouter que bien sûr l'État passe son temps les premières périodes à tester nos capacités de résistance. Il nous impose, c'est lui qui vient nous chercher pour tester nos capacités de résistance, pour savoir encore une fois qui on est et qu'est-ce qu'on va devenir.
Ya çoğunlukla hani diğer mahkumlardan izole bir şekilde kaldığım için cezaevinde ve sürekli karşılaştığım şey devlet temsiliyetiyle karşılaşmaktı ve bu da sürekli seni iradi bir şeye yöneltiyor. Yani onlarla bir karşılaşma, yani onlarla bir şey savaşım haline gönderiyor. Yok kavga gibi değil ama yani psikolojik bir durum, yani psikolojik bir baskı ya da ona karşı durma.
Et du coup, du fait de mon isolation, donc placé dans une cellule individuelle et du fait d'être seul anarchiste, les seuls représentants, les seules personnes que je rencontrais ou que je côtoyais au quotidien, c'était les représentants administratifs de la prison. Du coup, j'étais en permanence, quand je voyais un être humain, dans un affrontement psychologique, en fait.
Et est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter ou peut-être on peut discuter à la fin des luttes aujourd'hui autour des prisonniers, des prisonnières politiques qui se passent aujourd'hui, puisqu'on a parlé d'il y a 15 ans, mais est-ce qu'il reste quelques luttes contre les prisons en Turquie ?
Bu konuşmanın sonucuna geliyoruz. Senin bir dediğin, bir istediğin bir şey var mı? Hı. Yoksa bize işte bu gündem, şimdiki cezaevlerin mücadelesinden, şimdiki gündeminden bahsedebilir misin? Bu anda, şu anda ne vardır? Yeni bir şeyler var mı? Yeni mücadeleler var mı?
Anladım. Kısaca şeyden bahsedeyim. Özellikle önemli bu 1 Mayıs'ta 2012'de daha sonra bir büyük bir operasyon oldu anarşistlere ve bu operasyonda 15 arkadaşımız tutuklandı. bu anarşistler açısından önemli bir operasyondu ve önemli bir tutuklanmaydı cezaevi süreciyle ilgili. Ondan sonra bu, yani bu süreçlerden bahsedip şu an, daha sonra tabii antimilitaristlerin tutuklanma süreçleri ve cezaevleri süreçleri anarşistlerin çokça artık yaşamaya başladığı bir durum oldu Türkiye'de. Ve artık anarşizm, yani hani anarşistler bir şekilde devletle ciddi anlamda sürekli dava, yani tutuklanmasalar da onlarca davaya ve ileride yeni tutuklanmalara uygun bir zemin halindeler Türkiye'de.
Alors du coup, juste pour parler du coup un peu plus du quotidien de la situation des anarchistes, à partir du 1er mai 2012, où il y a eu une opération organisée spécifiquement contre les anarchistes, il y a eu 15 camarades qui ont été emprisonnés suite, des dizaines d'autres en procès, mais donc suite au 1er mai 2012. Et de notre point de vue, ça a été un changement majeur dans notre implication dans les luttes pour les prisons, car à partir de ce moment-là, on a commencé à être organisé, plus, hélas, plus massivement présent dans les prisons. À partir de ce moment-là, donc, que ce soit pour nos luttes antimilitaristes, nos luttes écologistes ou autres, on s'est retrouvés, on a eu des dizaines de procès et on en a encore là qui ne sont pas arrivés à terme.
Bugün cezaevlerindeki sorunlarda hani gelecek olursak, hani bu F tipleriyle birlikte artık çok ciddi keyfi tutumlar başladı. Ve işte görüşmeleri engellemek gibi, görüş günlerini engellemek gibi, telefonları engellemek gibi, telefon görüşmelerini engellemek gibi, ağır hasta tutsakların cezaevi koşullarında kalmasına maruz bırakmak gibi, birçok ağır hasta tutsak hala cezaevlerinde ve o kötü koşullarda ölüyorlar. Bunun yanında İşte gelen insanlara, görüşe gelen insanları terörize etmek gibi çok ciddi sorunları her zaman devlet deniyor orada ve her zaman hani bu tansiyonu orada ölçmeye çalışıyor.
Du coup aussi sur les prisons du type F, nous avons encore des revendications qui tournent autour actuellement, donc des luttes par exemple par rapport au fait que il y a des tentatives d'empêcher et de réduire le nombre de téléphones par personne vers l'extérieur, le nombre d'entrevues et les possibilités d'entrevues avec les personnes emprisonnées dans les prisons de type F. Et encore plus important, c'est la prise en charge, car maintenant, des personnes qui sont très malades, des gens qui ont eu le cancer, qui ont eu d'autres choses comme ça, qui ont eu l'interdiction de sortir des prisons de type F pour être soignés dans des hôpitaux et qui sont morts, en fait, dans ces prisons-là. Toutes ces pratiques et toute cette idéologie de peur est donc d'abord testée en prison sur nous, sur les prisonniers politiques en prison, avant de les tester à l'extérieur. Nous, c'est de cette manière que nous le voyons.
Diğer mesela önemli sorunlardan bir tanesi, özellikle LGBT bireylerinin yaşadığı sorunlardan bahsedebiliriz. Bu çok görünür olmuyor Türkiye'de. Trans tutsaklar bir şekilde devletin hala tanımlayamadığı bir yerde duruyorlar ve üzerlerinde tecrit edilme gibi, ondan sonra daha az koşullardan, yani ihtiyaçlarını karşılamasından uzak bir tutumda izole bir politika izliyorlar trans tutsaklara karşı. Diğer mesela bir sorun, şimdi Osman Evcan diye anarşist vegan bir tutsak var cezaevinde. Ve bu Osman Evcan ve onun bazı vegan tutsaklar vegan beslenmeyle ilgili cezaevlerinde direnişler başlattılar. Ve ciddi kazanımlar elde ettiler vegan beslenme konusunda. Yani bahsedilecek çok sorun var ama zaman sığdırmak açısından bunları.
Donc à vrai dire, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait développer plein de manières de lutter en prison, mais là j'aimerais plus particulièrement porter mon attention sur les luttes par exemple des personnes qui sont emprisonnées pour leur lutte LGBT dans les prisons, par exemple, spécifiquement sur les personnes trans. Et, il y a bien sûr des grosses difficultés, car l'État ne les reconnaît pas et ne veut pas comprendre et ne comprend pas, ne sait pas où mettre, et du coup les met dans des endroits qui ne sont pas acceptables pour ces personnes, voire même parle actuellement de créer une prison spécifique pour les trans. Et par contre, à dire que il y a des camarades qui ont été arrêtés pour des luttes dans les luttes véganes, qui ont réussi à obtenir ces derniers temps via leur lutte le droit, comment dire, que leur lutte soit reconnue en tant que lutte végane et que du coup ces emprisonnés soient tous rassemblés ensemble. Donc voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais bon, il n'y a plus beaucoup de temps.
Bah, merci Devrim Teşekkürler d'être venu, de nous avoir fait partager aussi les expériences et les analyses à propos de des situations en Turquie depuis 15 ans. Là. C'est bien de voir comment ça se passe ailleurs et pouvoir plus avoir d'autres regards aussi sur ce qui se passe ici. Et l'émission La Petite Cuillère sur Radio Canu à Lyon et Radio Dio à Saint-Étienne est en train de toucher à sa fin. Parce qu'il est 21h et notre temps d'antenne se termine. Pour rappeler l'émission La Petite Cuillère, vous pouvez nous écrire au 91 à l'atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu, 69 007 à Lyon.
Aussi, vous pouvez toujours nous laisser des messages si vous êtes en tôle ou si vous êtes proche d'un prisonnier ou d'une prisonnière. Pour nous faire savoir ce qui se passe à l'intérieur, vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur de notre téléphone au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Et on pourra passer vos messages ou faire passer vos informations à l'émission de La Petite Cuillère suivante. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à lapetitecuillere@riseup.net. Riseup, R-I-S-E-U-P. Net, la petite cuillère @riseup.net, notre adresse mail. Et la semaine prochaine, c'est on rediffuse l'émission Papillon, l'émission.
Ah non. C'est le cinquième jeudi.
La prochaine, c'est la
c'est
petite cuillère.
C'est la petite cuillère, c'est nous encore.
Voilà. Ben, la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, au même endroit. Et d'ici là, bon courage à toutes celles et ceux qui luttent à l'intérieur ou à l'extérieur pour faire tomber les murs ou faire passer des informations, faire évoluer les choses.
Et aussi un dernier merci pour la traduction, parce que la traduction c'est important dans la vie, spécialement dans la radio.
Merci Gülüşürüz.
Voilà, et puis bonne soirée à tous et à toutes.